Mon enfant a peur des gestes du médecin, ma misère a peur de ta miséricorde, de la vérité de ton amour infini. Et c'est probablement pour cette raison que la pensée de Saint Jean-Paul II, qui nous rappelle ce qu'est l'amour, est encore mal connue, même au sein de l'Église. Saint Jean-Paul II sait bien que nous avons peur du risque de l'amour. Et c'est pour cette raison que le pape de la famille, lorsqu'il débute ses catéchèses, nous renvoie au Christ, nouvel Adam, miséricorde faite chair, qui nous renvoie aux origines. Au commencement, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Ainsi donc, l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme, et les deux ne feront plus qu'une seule chair. » L'on a dit de manière belle et profonde, affirme Jean-Paul II, texte 2, que notre Dieu, en son mystère le plus intime, n'est pas une solitude, mais une famille, parce qu'il porte en lui la paternité, la filiation et l'essence de la famille qui est l'amour. Cet amour, dans la famille divine, est le Saint-Esprit. Ainsi, le thème de la famille n'est pas étranger à celui de l'essence divine. Cette affirmation ne peut que nous renvoyer à nouveau au Verbe de Dieu, lorsqu'il prie le Père pour que tous soient un comme nous sommes un. Examinons de manière un peu plus pénétrante cette affirmation, reprise dans le fameux passage de Gaudium et Spes 24. Lorsque le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un comme nous sommes un, il ouvre des perspectives inaccessibles à la raison et il nous suggère qu'il y a une certaine similitude entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans la charité. Cette similitude, reprend Karol Wojtyła dans son article intitulé « La famille comme communion des personnes », cette similitude manifeste que l'homme, seule créature sur terre que Dieu ait voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que dans le don sincère d'elle-même. Le texte, continue-t-il, parle d'une certaine similitude entre l'union des personnes divines et l'union des fils de Dieu dans la vérité et dans la charité. Il s'agit donc de la dimension trinitaire de la vérité fondamentale sur l'homme que nous lisons au tout début de l'Écriture sainte et qui définit le plan théologique de l'anthropologie chrétienne. Les paroles du Seigneur Jésus-Christ, « Qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un », ouvrent à la raison humaine des horizons inaccessibles en ce qui concerne ce mystère dans le sens le plus rigoureux du terme, qui est l'unité des trois personnes en une unique divinité. L'homme est semblable à Dieu, non seulement en raison de sa nature spirituelle, existant comme personne, mais aussi en raison de la capacité qui lui est propre de communauté avec les autres personnes. Fin de citation. Que signifie cette communion des personnes ? Pour le comprendre, dans son article « La famille comme communio personarum », Wojtyła nous renvoie au dernier chapitre de « Personnes et actes » sur la participation. Que trouve-t-on au sujet de la participation dans « Personnes et actes » ? Dans cet essai, Wojtyła montre que depuis l'accueil de la réalité dans un contact cognitif immédiat avec elle, jusqu'à la participation au bien commun et même à l'humanité comme telle de tout homme, la personne se crée elle-même de manière relative dans son acte d'amour. Mais comment est-il possible de prendre part à l'humanité de l'autre ? Comment participer à l'existence incommunicable de l'autre sans la détruire ? Le devoir de participation, qui au terme de personne et acte résonne dans nos consciences en un « tu aimeras », ne nous demande pas de rejoindre l'autre seulement en tant que, ne nous demande pas de rejoindre l'autre en tant que nous communions déjà avec lui. En effet, nous sommes déjà unis dans la même humanité à travers notre contact à celui qui nous communique à chaque instant notre existence humaine. Certes, nous devons aimer le prochain afin de le connaître de manière spéculative dans un contact cognitif immédiat du sujet avec tout ce qui lui est donné au travers de ses sens. Bien évidemment, ce contact cognitif immédiat est mu par l'amour puisque, comme nous l'enseigne Thomas d'Aquin, l'amour est le principe universel de mouvement. Mais tout cela est insuffisant face à la personne. L'injonction évangélique qui naît en notre conscience ne nous prescrit pas seulement d'aimer notre prochain en tant qu'il est un semblable connu dont nous pouvons posséder en nous la forme, la spécieuse, comme une similitude du connaissant, une similitude du connaissant qui se trouverait en nous. Le commandement de l'amour qui enjoint à la communion des personnes, qui enjoint à l'amour réel, c'est-à-dire au fait que l'aimé soit dans l'aimant et l'aimant dans l'aimé, exige bien davantage que cela. Au terme de personnes et actes, ce devoir semble exhorter à aimer l'autre, l'étranger, en progressant sur un chemin de plus en plus.